premier journal de la matinée. Amélie Perrier, bonjour.
Bonjour à tous. Le gouvernement se veut confiant et pourtant, la journée a de quoi faire trembler l'exécutif. C'est aujourd'hui que l'Assemblée nationale doit voter solennellement la réforme de la Constitution promise par François Hollande après les attentats du 13 novembre. Vote incertain si l'article 1er a été adopté assez largement lundi soir. Hier, il en a été autrement de l'article 2, partie polémique sur la déchéance de nationalité pour les condamnés pour terrorisme. Tard dans la soirée, 162 députés ont voté pour, 148 contre, une avance de seulement 14 voix donc. Les élus de gauche sont restés très divisés, à droite aussi. La campagne de Nicolas Sarkozy en faveur du texte n'a pas convaincu tout le monde, à l'image de Lionel Tardy, le député Les Républicains de Haute-Savoie.
Il y a deux postures. Il y a une posture politique de dire on laisse la gauche se débrouiller avec ses propres ambiguïtés, avec la démission de Taubira, avec des députés qui ne sont pas d'accord entre eux. Et nous, à droite, on regarde tout ça d'une façon décachée. Moi, c'est la position de Nicolas Sarkozy. Moi, je ne suis pas dans cette position-là. Quand un texte de loi sert à quelque chose, ma foi, je le vote ou je ne le vote pas. Mais en tout cas, je m'exprime et les choses sont cohérentes. Quand un texte de loi ne sert à rien, ce qui est le cas pour cette modification constitutionnelle, il faut le dire aux Français. On est sur deux choses très différentes. Pour Nicolas Sarkozy, c'est ne pas mettre la sécurité des Français en jeu. Donc, il faut être au rendez-vous de la sécurité, surtout que pour lui et pour beaucoup de personnes, la question n'est pas de savoir quand est-ce qu'il y aura un nouvel attentat, c'est de savoir quand. Donc, si un nouvel attentat et qu'on n'a pas voté ces dispositions, il faudra rendre compte aux Français.
Il dit, en clair, Nicolas Sarkozy dit les Français pourraient nous le reprocher, justement, de ne pas avoir voté ces mesures si un nouveau drame se produisait.
Il n'a pas tort, mais après, c'est à nous d'expliquer que ces mesures-là, de toute façon, ne changeront strictement rien. Et que pendant qu'on s'occupe de ce sujet-là depuis plus de 3 mois, il n'y a rien qui a été fait réellement pour assurer la sécurité des Français.
Lionel Tardy, député Les Républicains, il répondait à François Sauvestre. Et du côté du Sénat, là, on votait hier pour la prolongation de l'état d'urgence de 3 mois supplémentaires jusqu'au 26 mai. Vote plutôt consensuel cette fois, 316 sénateurs pour, 28 contre. Puis ce vote a été l'occasion hier pour le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, de préciser les chiffres de cet état d'urgence. En 3 mois, plus de 3300 perquisitions ont été menées. Aujourd'hui, 290 assignations à résidence sont toujours en cours. Le procès de Jérôme Cahuzac aura-t-il bien lieu dans la semaine qui vient ou sera-t-il reporté? On sera fixé ce matin. Le tribunal correctionnel de Paris doit dire si l'ancien ministre du budget, poursuivi pour son compte caché à l'étranger, peut être jugé comme prévu jusqu'au 18 février ou si les QPC, les questions prioritaires de constitutionnalité déposées par la défense, peuvent être prises en compte. Ces QPC contestent le cumul des sanctions pénales et fiscales. Jérôme Cahuzac a déjà accepté un redressement fiscal de plus de 2 300 000 euros.
6h33 sur France Culture, la suite du journal Amélie Perrier, et c'est à l'étranger le drame des populations syriennes fuyant la guerre.
Et oui, l'ONU somme la Turquie d'ouvrir sa frontière aux dizaines de milliers de civils. Beaucoup ont fui la bataille d'Alep, où le régime de Bachar al-Assad mène une vaste offensive soutenue par l'aviation russe. Les États-Unis appellent de leur côté Moscou à cesser les raids meurtriers dans cette province. La guerre dure depuis maintenant bientôt 5 ans, a fait au moins 260 000 morts et des millions de déplacés. La crise humanitaire est gravissime. Une nouvelle étude de 2 ONG néerlandaises et américaines s'est penchée sur les populations assiégées. Il serait plus d'1 million de Syriens dans ce cas, une 50aine de localités concernées, dont Homs et Deir ez-Zor, une stratégie militaire de la part du régime de Damas. Les précisions de Vera Lou de Reed.
C'est ce qu'on appelle la crise des sièges. 1 400 000 Syriens vivent dans des zones où les vivres n'arrivent plus, en courant des risques très accrus de décès. Les 2 ONG à l'origine du projet Siege Watch, qui dressent ce bilan, ont récolté de nombreuses données dans ces villes assiégées. Elles appellent l'ONU à prendre la mesure de ce phénomène d'ampleur qui s'inscrit dans la tactique militaire du régime de Damas. Valérie Zibala, directrice exécutive de l'ONG Syrian Institute, qui a réalisé l'étude.
Le gouvernement Assad a une véritable stratégie de guerre. Le fait d'assiéger une ville n'est pas vraiment encadré par le droit international tant que cela vise des combattants. Le problème, c'est qu'en Syrie, les sièges ciblent avant tout des civils. C'est une punition collective. Dans les zones assiégées, la population syrienne est entourée par l'armée. Ils bloquent toutes les entrées dans la ville, les arrivées de nourriture et l'aide humanitaire. Ils empêchent les gens de sortir de la zone, les civils sont comme piégés, ils n'ont plus l'eau ni l'électricité.
Sur une cinquantaine de localités concernées, seules deux sont assiégées par les groupes armés de l'opposition et trois par Daesh. Pour Valérie Zibala, ces chiffres désignent clairement Bachar el-Assad comme le principal meurtrier des civils syriens.
Quels que soient vos chiffres, tous les indicateurs montrent que ces sièges, les armes chimiques, les bombardements et les tortures quotidiennes placent Assad dans une toute autre catégorie que Daesh en termes de nombre de morts. Il est responsable d'à peu près 80% des pertes.
En tout, 46 localités sont aujourd'hui assiégées, principalement à l'ouest du pays.
À la une ce matin, encore dans l'actualité internationale, les primaires présidentielles aux États-Unis. Tous les regards étaient braqués cette nuit sur le petit État du New Hampshire. Et surprise, à gauche, c'est le démocrate Bernie Sanders qui l'emporte, passant devant Hillary Clinton. Une défaite cuisante pour l'ancienne secrétaire d'État. 18 points la séparent de son concurrent pour l'investiture. Et puis chez les Républicains, le milliardaire Donald Trump continue de faire la course en tête une semaine après l'Iowa. Il remporte cette primaire loin devant les 7 autres présidents. Prétendant. Les États-Unis visés par une attaque informatique massive. Les pirates ont réussi à obtenir les coordonnées de 20 000 employés du FBI et de 9 000 agents du département de la sécurité nationale. Ils ont publié les listes, les autorités enquêtent, mais ce nouveau piratage fait dire aux experts informatiques que les données gouvernementales sont loin d'être suffisamment protégées, Charlotte Alix.
C'est le dernier d'une longue série de piratages qui ont visé l'État américain ces derniers mois. En juin, des hackers se sont ainsi emparés des coordonnées et des données personnelles de 4 millions de fonctionnaires en piratant les serveurs du département des ressources humaines du gouvernement. À l'automne, c'est le patron du FBI lui-même qui a été pris pour cible. S'introduire dans sa boîte mail privée a été décrit par les hackers comme un jeu d'enfant. Plus grave encore, les pirates ont ensuite réussi à accéder à des outils de partage d'informations sensibles du FBI. Cette fois, ce sont donc les coordonnées de 20 000 employés de l'agence de renseignement et 9 000 du département de la sécurité nationale qui ont été volés et rendus publics, accompagnés de messages de solidarité avec la Palestine. Ce pourrait être le mobile, mais l'identité et les revendications des hackers restent peu claires. Dans cette dernière affaire, les autorités assurent qu'aucune information sensible n'a été publiée, mais dans la presse spécialisée, plusieurs experts en sécurité informatique critiquent sévèrement l'incapacité du gouvernement à protéger ces données.
On reste de l'autre côté de l'Atlantique avec ce coup de semonce contre les ambitions vertes de Barack Obama. La Cour suprême des États-Unis a suspendu son programme de lutte contre le réchauffement climatique. Elle avait été saisie par plus de 25 États, la plupart à majorité républicaine. Ces États contestent le plan pour limiter les émissions polluantes des centrales thermiques. Des mesures au cœur des engagements présentés par Washington lors de la COP21, la conférence climat à Paris en décembre dernier. Le temps de ce mercredi, cette fois en France. Encore un avis de grand vent sur la côte aquitaine et le Pays basque, ainsi que sur la Corse désormais. Météo France alerte sur un risque de débordement des fleuves girondins aujourd'hui. On attend également de la neige dans les Alpes, en Auvergne, en Champagne et en Lorraine. Et donc les températures sont en baisse, pas plus de 4 degrés à Aurillac, 7 à Chaumont cet après-midi en Haute-Marne, 9 degrés à Paris, 9 à Nantes, 10 à Toulouse et 15 à Bastia, Guillaume Erner.